Bonsoir à vous. Lorsque nous avions établi ce calendrier, le calendrier de notre groupe de recherche théorique en début d'année, en choisissant d'appliquer de façon un peu raide et mécanique le principe du quatrième, du deuxième ou du quatrième, en l'occurrence le quatrième à cause des vacances, du quatrième mardi de chaque mois, nous ne nous étions pas avisés de ce que non seulement c'était ce mardi-ci, mais la date, la rentrée immédiate des vacances, mais en plus que la conscience collective était occupée par toutes sortes de choses. Ce n'était pas seulement du ressort du lien entre poétique et théorie. Mais enfin, pour nous, au début, quand nous avons fait ce programme, qui était un peu fou, qui reposait sur les énergies, faut bien le dire, de quelques amis, aussi bien parmi les intervenants que parmi les organisateurs, eh bien, puisque d'amitié il s'agissait, il était nécessaire, naturel, en même temps que plaisant, de solliciter Michel Deguy, qui nous honore de son amitié, qui a été un participant actif et fidèle et assidu à nos travaux de cette année. Je vous rappelle que c'est aujourd'hui l'avant-dernière de nos conférences. La dernière sera donnée par Judith Butler, le 22 mai. Elle portera sur des questions concernant la performance et le performatif, et que notre question d'ensemble, notre question de départ, était autour du mot théorique, autour de la théorie, de façon un petit peu ouverte et en même temps assez précise. On avait adressé des questions, mais qui étaient des questions simplement des impulsions aux uns et aux autres. Alors, Michel connaît bien cette discussion pour laquelle il a été très attentif. Et puis, vous savez, vous qui êtes ici, je pense beaucoup de raisons de savoir que dans l'œuvre considérable de Michel Deguy, l'affaire du rapport entre poésie et pensée se joue depuis longtemps et sur de multiples modes. Au cœur de son œuvre poétique, d'abord, qui n'est jamais exempte d'un rapport à la pensée. C'est d'ailleurs une des raisons qui m'avait fait souhaiter initialement l'interroger sur ce point, en dialogue avec tout ce qui a pu se dire de fécond et d'important, en particulier dans les dernières décennies et dans le sillage des méditations importantes du XXe siècle autour de cette affaire. De l'autre côté, en tant qu'essayiste que philosophe, on peut le dire, lequel il a produit en particulier ces dernières années, mais depuis longtemps néanmoins, une réflexion qui ne cesse de se relancer, de se poursuivre autour de la question du poétique et de son enjeu de pensée, et a envie de lui demander: cher Michel, que te dit le mot théorie dans tout ça? Alors tu as bien voulu relever le gant et immédiatement tu nous as soumis cette question qui était à la fois ambitieuse et enfin très belle, qui était au cœur de notre affaire. Tu nous as proposé, tu nous as indiqué, tu as choisi, enfin, ce titre: une poétique est-elle une théorie? Alors, au point où nous en sommes là, rendu à ce point, je n'en sais pas plus que chacun ici, que vous tous, et je partage évidemment l'immense curiosité que nous avons d'entendre Michel sur ce point. Merci infiniment, Michel, d'être des nôtres, et
bon, merci.
Nous t'écoutons.
À Denis, à vous, bien entendu. Alors, c'est un peu rhapsodique, mon affaire. Je m'aperçois que j'ai écrit 14 digressions. Voilà. Alors, j'ai relevé ça tout à l'heure, mais je n'avais pas l'intention, au fond, ça fait. Si j'avais un transparent, comme dans une vraie université, je mettrais au. 1. Comment vois-tu les choses? 2. Poétique et théorie? 3. Baudrillard? 4. La théoria? 5. Qui a peur de la théorie? 6. Yves Bonnefoy et le concept? 7. Théorie et pratique? 8. Poésie et découverte? 9. Poésie et raison? 10. De la subjectivité? 11. De quelle jouissance est-il question? 12. À quoi un poème est-il bon? 13. De quelques services rendus par la poésie à la pensée? 14. L'intuition. Je ne crois pas que j'arriverai, donc vous verrez tantôt sauter des pages. Voilà. Comment vois-tu, et parfois j'annoncerai, si je n'oublie pas, le titre, l'intitulé ou le sous-titre, la rubrique du paragraphe ou de la séquence en question. Comment vois-tu les choses? Demande le poéticien au poète. La question peut s'entendre avec accent sur comment, quelle est la méthode, comment s'y prend une poétique et son poème. C'est une disposition qui se met en route et en use avec ses moyens. Une poétique ne considère pas seulement les formes, la récapitulation de sa tradition selon le devenir de ses genres, de ses habitudes et de ses crises, mais s'interroge sur ce qu'elle sait faire et sur la nature et la portée du voir théorène qui soutient sa techné pour en appeler, comme d'habitude, au lexique grec de cette réflexion. Même s'il arrive qu'un poète tel ou tel ne veuille pas ou ne puisse le faire hostile à la théorie, voire à la réflexion. Une critique de la raison poétique en analyserait les principes et présupposés. Je m'envoie ici en exposer précipitamment une ou deux articulations, séquences de propositions qui recourent à des expressions lexicalisées, à des locutions familières, pour en souligner le bien fondé dans le sens commun de la langue. La poésie pense, elle fait du sens en poème, dans le langage de la langue naturelle, comme on dit, pour l'amour de la vérité. Cette histoire d'amour fait le fond. Elle aime entendre sa langue, elle aime ceux qui aiment, par exemple la philosophie. Elles sont prises ensemble dans le philein, attachées l'une à l'autre dans le commun attachement à l'être. Le régime de vérité auquel le sujet, qu'on appelle donc souvent sur le poète, s'assujettit est double. Vérité d'illumination, bien entendu je prends le mot rimbaldien, et vérité de jugement. La disposition poétique s'ouvre à l'apérité de la grandeur monde. Qu'y a-t-il ? Il y a. Le il y a maintenant, de Rimbaud à Apollinaire, Éluard et bien d'autres, ouvrir main poème. Ce qu'il y a aujourd'hui à chaque fois ne se montre pas immédiatement. Disons que le poème montre l'exemple. Expression dont la résonance éthique devra aussi être sondée. Empirisme perçant, il parie le sens sur un cas. C'est comme ça. Plus intelligemment, c'est comme si c'était comme ça. Deux principes de pensée sont à l'œuvre ici, le principe de figuralité et le principe de comparaison. Le premier renvoie à l'imagination, puissance imageante qui met en scène le monde, visibilité et dissibilité, représentation et texte, je dirais, si on, pour recourir comme à des comparants aux mots du théâtre. Le second énonce, second principe, donc ici que je voudrais. Penser, c'est juger, faire des propositions, juger, c'est comparer. À la fin, toute question, c'est-à-dire tout différent humain, où s'écartèle la différence des vues, c'est-à-dire tout dialogue, au sujet de toute chose en question, s'expose ou existe, disons, cette scène, de deux ou plusieurs choses. Il s'agit de décider, penser, décider, que c'est la même ou pas la même. Ça n'a rien à voir, comme on dit, ou ça a tout à voir, que c'est la même. Le poème est, je le dis aussi de cette façon-là, le poème est tautologique et homologique. Il saisit un même à même, tauto. Alors ça, c'est les pages que j'aime bien du pain de la vie moderne. Tout le temps, Baudelaire dit à même, le même, plus lui-même, qu'est-ce qu'une chose qui est elle-même, dans où l'identification est une sorte de recherche d'intensité du même. Et ou bien, alors je suis tautologie maintenant homologie, il rapproche, il homologue, c'est-à-dire cette fois identifie, si on prend ce mot à cause de idem, quelque chose par son être comme une autre, il va chercher l'autre pour la rapprocher par un rapprochant, subjuguant, un tiers par où les deux ou plus sont comparables à leur différence. Mon approche du couple pensable à penser et poétique théorie s'apparente plutôt à une expédition qui essaye différentes voies d'approche par des faces plus ou moins escarpées. J'ai donc de temps en temps donné des titres ou des intertitres au récit de ces sorties successives, entrecoupées. Ça lui donne un air d'essai picaresque, genre un peu spécial. Pour commencer, c'est-à-dire en prenant les deux termes de prime abord dans un usage trivial, nous entendons par théorie une construction intelligible adapté à un objet d'expérience de plus ou moins grande ampleur, relativement autarcique dans ses postulats jusqu'à ses théorèmes, une sorte de vase clos abstrait, réflexif, dans un toute chose égale d'ailleurs, explicitable, c'est-à-dire, c'est-à-dire prêt à résister aux épreuves de la réfutation logique et de la falsifiabilité expérimentale. Poétique de son côté, plutôt usité comme épithète, et à propos de n'importe quelle émotion esthétique, sera ici employé nominalement, aristotéliquement, pour dénoter soit une techné, donc art, savoir-faire, dans un domaine musaïque, principalement celui de la poésie, ici nous sommes présupposés dans son être-là, soit un programme plus ambitieux, poétique, soit un programme plus ambitieux, intéressant là, en général, dans la relation avec ses entours et avec la philosophie. Les fils qui vont s'entremêler ici sont d'abord distinguables et concaténables. Trois relations y sont attachées, donc emmêlées. Poésie et poétique et théorie poétique et théorie. On ne dit pas que le poème doit bien théoriser sur le modèle du bien métaphorisé aristotélicien, mais que si poème il y a, supposition qui vise à séparer le poème amateur épisodique de l'œuvre en poème, d'un auteur ou poète qui cherche la vie bonne, oui, eudzen, en se vouant à la poésie, distinguer, disons, le poème, je vais dire d'occasion, et l'œuvre, il emporte ou comporte une... C'est le poème, donc la phrase d'emporte comporte une théorie qui est au minimum un art poétique comme techné et praxis. C'est le sens qu'on entend immédiatement quand on ouvre tel, celui de Verlaine, par exemple, art poétique. Et pour le... Donc une théorie qui est au minimum un art poétique avec, comme techné et praxis, et pour le meilleur, ou dans le meilleur des cas, une vue d'ensemble, donc synoptique, articulée à l'acribie de la techné sur et avec ses confins, ses alliés, ses étrangers, etc. Laquelle, cette vue théorique, peut se porter jusqu'au savoir de la différence entre les différents types de théories. Exemple, de ce que je citais un exemple par le titre fameux de Verlaine, et bien pour l'exemple d'une grande théorie, je donnerai le titre de Paul Claudel, Art poétique, ou bien de Valéry, le cours de poétique, et de beaucoup d'autres. La scène où nous avançons est peut-être très en général celle que se font la science, y inclut les sciences humaines, et la littérature, y inclut la poésie, catexochène, puisqu'elle s'était installée dans la position hiérarchique où l'avait établi le romantisme, c'est-à-dire l'esthétique hegelienne. Science et poésie se toisent du haut de leur majuscule, s'intimidant, se tournant le dos, s'éponnant. Des expressions comme le poème de la science et la science du poème ne sont pas dénuées de signification. On peut multiplier les formulations de cette partition, de ce partage qui repasse partout et tantôt se ressoude. Les distinctions entre science et savoir, ou entre science dure et science humaine, sont fonctionnelles. Le binôme mathème versus poème est en vigueur, on le sait, et en rigueur. Les sciences humaines observent et théorisent, c'est la différence entre graphie et logie, disons, ethnographie, logie, ce que font les humains. Et dans ce faire, il y a celui du poiesis qui, sachant ce qu'il fait, se pousse à la théorie de ce qu'il y a de théorique dans la techné du poème, qui ne se confond pas avec la praxis du poète, où je viendrai tout à l'heure. Je poursuis par une mise en scène de cette scène récurrente de notre théâtre, et je lève le rideau, deuxième fois en somme, sur un épisode récent. C'était mon point 3, donc je parle du point 2, ou paragraphe 3, qui s'intitule un exemple, celui de Jean Baudrillard. En écrivant ces choses pour ce soir, je prenais aussi des exemples dans l'actualité. Dans Le Monde du 18 mars, un universitaire, Philippe Corcuff, anéantit Baudrillard. Le titre, c'est « Jean Baudrillard n'a pas eu lieu ». Au motif qu'il aurait abandonné l'enquête sur le réel au profit de l'intuition, autant dire la théorie pour la poésie. Le juge nécrologue, appelons-le Radamande, ne distingue pas seulement, mais sépare au seuil des enfers le côté de mais la logique laborieuse des artisans du concept, avec la lourdeur d'un travail intellectuel raisonné, le rationalisme critique, les sciences, la rigueur, et de l'autre, je continue à citer en condensant un peu la phrase, de l'autre, l'élégance, qu'avec l'aide d'une citation de Wittgenstein, il envoie dans la non-recherche, le dogmatisme est mêmement sanctionné par un aphorisme de l'illustre autrichien, le discours radical chic, etc., justice binaire. Mon propos n'est pas de rappeler Baudrillard parmi les âmes tutélaires, il y est bien, mais de dramatiser l'enjeu de la réflexion que j'entame ici. Qu'il y ait eu changement de ton et quasi-métamorphose chez Baudrillard, c'est peu contestable. Mais la question de l'articulation de la vision du visionnaire avec le savoir et les savoirs, les données médiates de l'enquête et de la méthodologie, disons, dans le cas de Baudrillard, de la préoccupation sociologique avec les arts et la poésie, ce mot sous bénéfice de l'inventaire, bon, parcours ce papier, demeure, ou plutôt se pose, où je veux entrer. Et la conclusion du Zoïl aggrave son propre cas, car il s'y présente par habileté rhétorique, d'excusation, comme tâcheron malhabile de l'université, en humble zélote de ses maîtres savants, de point Lévi-Strauss, Foucault, Bourdieu et quelques autres. Mais une question difficile est ainsi esquivée, car on montrerait sans peine, je crois, que la pensée de ces penseurs, qualité refusée, prédicat refusé, par Gourcuff à Baudrillard, ne consiste pas seulement en recherche fastidieuse sur le terrain et dans la bibliothèque, mais que l'unité de ce divers, autrement dit la puissance synthétique qui ramasse et emporte les données de l'expérience, en excède toujours la récollection, comme l'infini excède toujours son diminutif. Et que c'est la passion et la vision, combien sombre au fond, chez les maîtres susnommés, dont la pensée nous éclaire et peut nous guider par sa puissance poétique. Pas de théorie sans poétique, ce n'est pas tant, en fait, tout à fait la question, puisqu'elle est plutôt pas de poétique sans théorie. 4. La théoria. L'antique signification de théoria relie, est-ce le relié de la religion, la théorie à la divinité, guillemets, contemplation des premiers principes et des premières causes dans le genre de vie vouée à la pensée. C'est Étienne Balibar plus Barbara Cassin plus Sans Augier qui cite Aristote dans le vocabulaire de philosophie des intraduisibles où j'ai prélevé cette petite citation. L'étymologie de Chantraine, entre les items disons, de théa et de théoria, théoros, etc., nous promène du spectacle à la considération, de l'éclat, de la merveille, bref, dans le visible. Mais les choses divines se sont retirées de l'apparition, qui fut leur mode d'être phénoménal, polythéiquant. Le Dieu était ce qui paraît sur l'Olympe ou dans le fracas d'océan. Et rappelons-nous que les chrétiens, un peu plus tard, furent ceux qui ont du mal à y croire que le Dieu paraisse. Où est passé le divin devant la question. Et peut-être, grâce à cette disparition du Dieu qui paraissait, est-ce l'apparition qui est devenue divine ? Disons, une des grandes, pour aller très vite, une des grandes fonctions, si on peut dire ça, c'est le mot qui va venir tout à l'heure à propos de Jacobson, mais une des grandes fonctions de la poésie, je puis dire, fut le service de ces grandes choses terrestres qui, en paraissant, déploient ou déployaient le sacré, et donc je cite à dessein, bondissant sur quelques siècles, le demi-dieu Hyster ou Das Heiterer, le sacré. Et donc je fais allusion à une citation à Hölderlin. La théoria n'est plus ce qu'elle était, et nous dit le même article du vocabulaire philosophique, progressivement délestée des connotations théologiques, voici que la théorie, dans notre usage ordinaire, reçoit l'acception d'une. Ça, c'est. Reçoit l'acception, c'est la citation est finie, c'est progressivement la citation de délestée des connotations théologiques. Voici que la théorie reçoit l'acception d'une vue de haut et du haut, de très haut et d'ensemble, que le terme vision peut synonymiser. Nous retiendrons que la question d'où la théorie voit-elle ce qu'elle considère est impliquée, il faudrait ou faudra la reprendre. Vision plutôt que vue, vision dont la visée n'est pas restreinte à un objectif. Dans notre mémoire se lève la sixième strophe de la prose pour Des Esseintes, où vision séparée de vue rime avec en de vision, en de visée. Ou bien l'affirmation du jeune bateau ivre, et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. Mais de prime abord, si nous en croyons l'élocution routinière, la question qui me sert de titre peut paraître incongrue. Pourquoi rapprocher théorie et poétique quand l'usage aussi d'une acception dépréciative, la théorie est fumeuse, à une acception forte commune au docte, la théorie de Newton et d'Einstein, où il va le plus grand objet scientifique possible, tandis que la poétique, pour autant que cette substantivation soit reçue, elle l'est, plus ou moins couramment, renvoie à un savoir-faire, une techné, dans une ère elle-même limitée, même si extensible, de ce qu'on appelle littérature. Quand elle ne paraît pas plus étroitement circonscrite encore dans des expressions comme rhétorique et poétique au recto de certains dictionnaires pour désigner un lexique spécialisé. Alors, malgré cette hésitation feinte, le sérieux de la question tient à la rigueur des distinctions qu'il est la responsabilité de la pensée de déterminer de manière à pratiquer les séparations qui leur correspondent. L'œuvre d'un auteur, peu à peu reçue et finalement historisée ou historicisée comme poète, est un ensemble de trois sous-ensembles, un ensemble de trois ensembles distincts, même s'ils se chevauchent. Celui des poèmes et écrits apparentés, par exemple Canzoniere, celui, on va dire, des réflexions sur l'art de poésie et son travail, carnets, journaux intimes, etc., et celui des écrits requis et dispersés par la vie, retrouvés, comme on voudra dire, entre tous, la correspondance, soit donc les opéras publiés ou à publier, les notes d'atelier, hein, carnet de Montbord, ça c'est l'expression de titre de Reverdy, vous en souvenez. Trois, je dirais, troisièmement, les lettres. Et si on ouvre Tom Pléiade de Baudelaire, Mallarmé, Monsieur Galine, on trouve bien. Mais on pourrait le montrer avec des auteurs très différents et anciens. C'est du Bellet, Défense Illustration, puis Sonnet des Regrets, puis un ensemble de textes qui correspondent. Ces sous-ensembles se fréquentent, bien sûr, passent l'un dans l'autre, mais ils sont distinguables, même s'ils s'empiètent et s'inquiètent, se mélangent ou se fondent sur les bords avec l'indiscernabilité des confins, comme toujours. Une préface de Racine et sa poétique, la correspondance de Flaubert n'est pas l'éducation, un article de Proust dans le Figaro n'est ni Jean Santeuil, ni une lettre à Madame de. Maintenant, y a-t-il une différence d'essence entre la réflexion poéticienne d'un auteur, d'un écrivain à poème, l'art poétique de Claudel, telle lettre, conférence de Mallarmé, etc., et la construction d'une poétique en théorie littéraire, entre littérature et littératurologie, si on veut. Pour l'essentiel, je ne crois pas. Une différence de systématicité, de perlaboration, d'enseignement, ne fait pas une différence donc d'essence, que j'ai pris ce terme. Sainte-Beuve était aussi romancier. Si on retrouvait une tragédie d'Aristote, ça ne changerait pas la teneur de la théologie de la poétique. Hegel a écrit des poèmes, s'ils ne sont pas merveilleux, ne changeraient rien à faire. Hölderlin a philosophé, pas seulement au séminaire, etc. Le titre suivant, c'est qui a peur de la théorie ? Antoine Compagnon réfléchit à la théorie dans son livre « Le démon de la théorie ». Son hypothèse directrice est que la théorie et le sens commun sont extérieurs l'une à l'autre, et adversaires, et même, je vais relever l'expression par 278, en duel. Les deux sont déjà là, d'une part, d'autre part, avant la confrontation et le recensement de leurs conflits. Cependant, le sens commun ou jugement, toujours à la recherche de la vérité, et soucieux de ne pas perdre l'attache du réel, l'être au monde du corps propre, pour emprunter des locutions à Merleau-Ponty, mais on peut l'emprunter à qui on veut, autrement dit, de ne pas perdre le sens de l'attachement, ne peut pas ne pas être cofondateur de la théorie, quelle que soit l'abstraction constitutive de celle-ci. Lui, le sens commun, doit s'y retrouver comme, si, comme il y était impliqué, même s'il ne s'y reconnaît pas immédiatement parce qu'il est reconfiguré. Une théorie, elle aussi, jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Plutôt que de poser à part ces deux et de les anastomoser ça et là, on peut les disposer en boucle, en cercle vertueux si on veut. Il ne faut pas perdre espoir de relever le sens commun, l'opinion, la certitude sensible, comme on voudra dire, en rigueur de pensée. Pascal dirait en habileté. D'ailleurs, le dernier chapitre de... Je me rappelle le dernier chapitre, le dernier chapitre des Compagnons, c'est, reprend cette vue qu'il appelle la batmologie, en empruntant le terme à Barthes. Pascal dirait en habileté, batmologie si vous voulez, en paradoxalité. Ou alors, je prends cette comparaison, je ne sais pas si vous, ce serait comme si un théologien disait que la théologie dogmatique était extrinsèque, inaccessible à la foi des fidèles. Or, me semble-t-il, la foi même du charbonnier de pouvoir être reliée continuellement par des chaînons non manquants à la somme théologique, fût-ce en passant par la divine comédie. Faute de quoi l'apologie pascalienne serait vaine. La reluctance du sens commun porte sur quelques points importants. L'événement poétique, le poème, n'est pas un phénomène objectivable dont la conformation et la prévisibilité soient repérables et maîtrisées. L'élocution comme la poésie toujours beaucoup plus que la poésie dont s'occupe la théorie, on pourrait dire ça. Et son secret, le secret de la fabrique, de sa fabrication, est une alchimie pour prendre aux idées. Lieu commun qui en même temps s'appuie sur des titres fameux. Les réquisites de l'analyse théorique ne sont pas ultimes, l'affaire ne sera pas légalisée à la façon dont Lévi-Strauss, pour citer encore Lévi-Strauss, en forme le souhait à propos des voyelles, si vous en souvenez, par le souhait scientiste, par la psychologie et la science du cerveau. Pas plus que la fonction poétique de Jacobson, mise à fonctionner, ne produira autre chose que « I like Ike », ce qui est assez minable poème, on en convient. Mais cela n'empêche pas que tout poème soit paronomastique ou hypogrammatique ou sorite de la signifiance, programme d'itération, etc., etc. L'écrivain à poème et prosème, disons, n'est ni mécanicien ni théoricien généraliste, mais songeant à Vico et à sa pensée de l'ingénium, on pourrait peut-être avec guillemets, j'allais dire ressortir, enfin l'appeler ingénieur. Ce qu'il y a d'indivis ou de commun au sens commun et à la théorie, si je reprends les mots d'Antoine Compagnon, permet que la théorie n'en soit pas coupée mais compréhensible à tous. Il s'agit essentiellement de la subjectivité, c'est-à-dire d'un ensemble de dispositions et de moyens constitutifs d'humanité dont je numère quelques-uns et où je retrouverai tout à l'heure quelques brefs développements ou allusions, tangences à ces indications. La terminologie et la syntaxe de la poétique sont vernaculaires. Les grands mots sont pris dans la langue, repris à la langue. L'opération fondamentale est celle du jugement et de la comparaison. L'expérience sur le sol de laquelle s'élève le poème est celle de la vie, on dit souvent l'émotion. Les énoncés, propositions, le caractère, alors ça c'est, bon, j'ai écrit ici de la description et de la définition, mais ce que deviennent description et définition, j'essaierai d'en dire un mot tout à l'heure en finissant, si j'arrive à finir, grâce à Marcel Proust. L'usage du poème est la citation. Je vais considérer quelques-uns de ces moyens. C'est-à-dire jeter un regard par certains de ses biais dans la sphère de la subjectivité. Mais ce n'est pas parce que la poésie et sa poétique consistent en telles attitudes, manœuvres, risques communs, donc juger, comparer, réfléchir en langage de langue maternelle, d'écrire, définir, citer, etc., qui en rendent possible la lecture et le partage, qu'elles, la poésie, la poétique, ne sont pas, et elles ne sont pas pour ça, elles le sont plutôt donc exorbitantes du sens commun, paradoxales, risquées. Extrémité que la théorie, dans un certain sens, doit ou peut accompagner, et à son tour rendre des comptes à d'autres théories, par exemple en anthropologie. Yves Bonnefoy et le concept. Il y a un paradoxe chez Yves Bonnefoy dont l'intensité est difficile à mesurer, la tension, c'est pas difficile à apprécier. Il serait assez niais de mettre chez lui au compte d'une contradiction mal assumée, l'hostilité au concept d'une part et l'ampleur de l'œuvre réflexive, critique, théorique. D'autre part, si ces deux motifs sont tellement récurrents, c'est bien que sa pensée, autrement dit son écrit, n'est pas double par hasard, duplice par ruse, mais bien duel, en duel. Un se divise en deux, deux se polarise en un, autrement dit, paradoxal. On l'entend partout dans son œuvre, et il suffit presque de l'ouvrir au hasard, de l'anti-Platon ou préface à Mallarmé, et je vais le faire entendre un instant, en tirant d'un écrit tout récent, il y a un mois, quelques citations. C'est la préface au livre, la préface qu'il va une fois donner au livre de Jacqueline Risset, peut-être certains d'entre vous l'ont aperçu, mars 2007, Traduction et mémoire poétique. Je cite, pour une fois je vais même relever la page, page 9, la poésie étant la visée d'une immédiateté de l'objet sensible qui veut que l'on s'impatiente des concepts, notions, définitions, jugements qui couvrent celui-ci de représentations et de mythes. Un peu plus loin, les poètes aiment les mots, mais ils n'aiment pas les concepts en eux. Un peu plus loin, la poésie est la transgression du conceptuel dans le mot dont le son et les rythmes retournent le sol de la signification, y creusant un sillon de lumière. Mais, page 12 du même livre, c'est dans la préface, à propos du travail de traducteur, de justement Jacqueline Risset, traductrice de la Divine Comédie, qui est travail de poésie, je cite, quel laboratoire pour la pensée de la poésie, quelle occasion de percevoir mieux ses catégories, de comprendre mieux les voies de la création, devenir plus près des œuvres que l'on a de toujours aimées. Il est le mieux placé pour devenir un penseur de la poésie, un témoin du vouloir de la poésie parmi les divers projets de l'esprit. S'il y a une différence, et sans doute un différent avec Bonnefoy, c'est sur la question du paradoxe que j'ai relevé, autrement dit de l'articulation, disjonction des deux, on va dire le sensible et le conceptuel, peut-être le dosage. Une conception ennemie du concept est-elle possible? La question est en effet que la conceptualité en question, et donc plus tard on va dire sa conception ou la conception d'ensemble, ne coexiste pas. Enfin, il convient, c'est ça que veut dire la phrase, qu'elle ne soit pas simplement en coexistence, en parallèle, en escorte avec ce qu'il appelle le sillon de lumière. Comme on pourrait être tenté de le croire si on place le traducteur à côté de l'original, plus ou moins facultatif. Mais quelle, cette conceptualité, rentre dans le poème, d'où elle provient? La réflexion théorique ou poétique a trouvé dans le poème de quoi, c'est-à-dire les mots concepts, les notions, si on veut, parler de lui, sur lui, avec lui, à lui. La terminologie de la poétique n'est pas une technologie qui vient d'ailleurs. Alors, je prends chez Yves Bonnefoy, puisque je cite l'arrière-pays, le leurre du seuil, la lisière, l'improbable, sont les termes poétiques de la poétique. Donc, technique si on veut, mais ils ne viennent pas d'une contrée exogène, ils sont finalement tirés, proviennent de la langue. Il y a boucle, alors en généralisant, je dis ceci, il y a boucle de la pensée de la poétique, et de la poétique de la pensée. Je le remarque en citant donc cette clausule, enfin je le ressouligne un peu contre, si l'on veut, en citant cette clausule, donc une bonne fois, d'un paragraphe de sa page 14 qui parle de la plénitude première que l'auteur de la Divine Comédie, pensant en théologien, a d'abord vécu en poète. Alors, ici, bon, un peu brutalement, bien entendu, je dis, il n'y a pas de d'abord vécu, même s'il y a une maturation. C'est-à-dire, pas plus que donc, pour résumer ce message, il y a un texte poétique, puis à côté de ça, un travail de la traduction, qui en quelque sorte serait supplémentaire. Donc, s'il y a des concepts en poétique, c'est que le poème en use, les use, c'est qu'ils viennent de la poéticité de la pensée, comme je dis. Ils ne sont pas importés de disciplines exogènes, ni philosophiques, ni de sciences humaines. On peut dire aussi, par exemple, peut-être les transcendentaux ne sont pas un langage technique surajouté. Ils viennent du vernaculaire pour dire et l'être et l'énergie du vernaculaire. Alors ceci, ces termes, ça c'est une question très vaste, les termes en question que j'appelle la terminologie fondamentale de la poétique, peut-être redoubler en quelque sorte, traiter à part, annexer, redoubler, réinjecter, et c'est mon usage par exemple, moi, des termes de la rhétorique que j'ai appelé, qui m'est arrivé d'appeler par exemple métaphore généralisée, mais inventée par le poème de la langue, traité à part et réinvesti en procédé du poème, en techné. Quant à l'articulation bâtie, la cohérence architectonique des choses, elle est déjà une structure, une organisation structurale. Transition, je vais sauter quand même. Voilà le point. Cette théorie est pratique. Si la considération des choses divines ne détermine plus l'essence de la théorie par son telos, c'est dans le rapport différenciant à la praxis que le terme théorie trouve sa valeur, au sens saussurien, et son emploi moderne, disons, préféré, ou plus en usage. Disons, au moins, depuis le fameux texte kantien de 1693, sur le lieu commun, il se peut que ce soit juste en théorie, mais en pratique, cela ne vaut point. Dans la dernière phrase, conclue, guillemets, on en reste également au point de vue cosmopolitique à cette affirmation que ce qui est rationnellement fondé vaut pour la théorie, vaut aussi pour la pratique. Donc rapport différenciant où la praxis est d'abord subordonnée, autre formule, je ne sais plus qui a traduit ça, je crois que c'est Ferry, notre ancien ministre de Kant, la théorie étant constituée en propre par le rassemblement de certains principes. Ça j'appelle le régime théorique se subordonne, et qui, pour en abréger l'histoire, va jusqu'au renversement de ce que vient d'être dans la formule connue d'Althusser, la théorie est une forme spécifique de la pratique. Ce qui, rapporté au champ de la poésie et de la poétique, se traduirait ainsi, il y a une théorie poétique, et là je suis en train de dire que si la théorie prend son sens principal dans son articulation à la praxis, et s'il y a ce renversement que j'ai, court-circuité de Cantal du Cercle, il y a une théorie poétique ou en poésie, pour autant que la poésie est une affaire de groupe, d'école, programme, enseignement, action commune. Et c'est bien ce qui se produit, ce qui a lieu, je veux dire, de la Pléiade au surréalisme, pour prendre des exemples français. Il n'y aurait théorie que dans la relation différenciante à une praxis. Pour autant qu'une praxis en dépend dans une réciprocité engendrante et transformatrice de l'une par l'autre. Et puisque la question demande si, enfin la question que je me suis posée, si une poétique est une théorie, donc on devrait interroger au moins la praxis théorique, demander s'il y en a une à chaque fois, quelle est-elle, je vais prendre quelques exemples, et quelle différence entre praxis et techné à l'intérieur du champ d'activité. Par exemple, en prenant une vue historique sur une période et un groupe déterminé. Faire, je continue un peu dans l'histoire de praxis, faire, c'est faire ensemble. Y a-t-il du faire ensemble en poésie ? Ce qui justifie l'expression de pratique poétique. C'est attesté. Le groupe, l'école, le manifeste, la querelle, l'affaire des générations devenues si prégnantes, autant d'angles par où pour entamer et prolonger la description. À quoi j'ajoute, bien sûr, l'affaire de la revue. Devenue moins l'expression d'une école, d'un groupe, y en a-t-il encore, que le canot de sauvetage, le moyen grâce auquel il y a encore de l'ensemble. La poésie doit être faite par tous, disait Lautréamont, par quoi j'aurais peut-être dû commencer ma remarque sur la praxis. Ce tous est à chaque fois un nous que la revue fomente. La théorie d'ensemble de telle quelle, ce petit clin d'œil aux mathématiques, annonçait un syncrétisme de groupe. Ensemble, faisons de la théorie, qui aura été plus la sociologie du collectif qu'un formalisme mathématisé. La théorie, ou minimum théorique partagée, ce qui intéresse une communauté fictive, un programme commun. La techné, ou art, ou métier, c'est le savoir-faire. C'est ce que Socrate cherche à interroger chez Ion, rappelez techné, pour, quand je me mets dans ces questions-là, je cherche à en donner un aperçu par le biais de questions telles que la question du rapprochement, de la comparaison. Si le poème s'emploie à rapprocher, comment le fait-il ? Question de méthode dont je suis parti. Je me rappelle là le titre de Ponge en anglais, un peu ironique, My Creative Method. S'il s'agit d'écrire, je vous multiplie les temps, mais quelle que soit l'emphase contemporaine sur l'écriture prise absolument, il y a venu, d'ailleurs, non c'est d'où, des ateliers de creative writing. Comment devient-on poète ? Donc là, je passe, vous voyez, où je juxtapose praxis et techné. Comment devient-on poème ? Apprenez à le devenir par le dérèglement des sens, les sens du corps ou les sens des mots. Enivrez-vous, recommandez Baudelaire, c'est un mode d'emploi. Peut-être ne suffit-il pas la lecture ou la bouteille. S'il faut prendre à la lettre, c'est parce que l'esprit n'a pas d'autre existence immédiate que sa lettre. Exercice de style, par exemple, ouvroir de littérature potentielle. Si la poésie est entraînante, il faut s'entraîner à entraîner. Si la poésie est vision et diction, il faut aiguiser sa vue et sa voix. Mais le parler du dire n'est pas la voix des cordes vocales. Je multiplie les formes. La poésie est expérimentale, mais pas comme la médecine. L'expérimentation rapportée à la praxis peut être de groupe, par exemple portant sur l'improvisation, etc. Bon, j'ai ajouté cette formule aussi, entre la pratique des tables tournantes chez Victor Hugo en petit groupe et les séances surréalistes avec Breton, il y a de notables différences. Aujourd'hui, la théorie est le mode d'emploi des groupes. Dans ma propre expérience, je pourrais raconter des trucs, je vous ai raconté d'ailleurs des expéditions, des improvisations, etc. Aujourd'hui, la performance est à plusieurs. Alors, je laisse ces allusions au techné, ou à la techné, pour repartir en direction de la subjectivité comme orientation de la théorie en poétique, si c'est une limitation interne à la théorie, ou comment. Alors j'essaye de prendre deux motifs pour les traiter aussi comme des petites digressions. Des itinéraires de secours, si vous voulez. Poésie et découverte, poésie et raison. Poésie et découverte. Une théorie rend possible découverte et réciproquement. Au seul nom de découverte, nous voici prêts à l'admiration. Les grandes découvertes furent et sont terrestres et scientifiques. Le mot l'aurait pour ainsi dire réservé, le terme l'aurait pour ainsi dire réservé. Des contrées ignorées, terres inconnues, ou de phénomènes, de causalités, de lois, qu'une théorie pressentait ou obstruait, et qu'une théorie débusque, fait voir, formalise. Le lieu commun, le préjugé que nous aurons peut-être à inquiéter, à corriger, d'une certaine manière, c'est ce que je suis en train de faire aussi tout le temps, tient séparé, éloigné, donc, éloigné, c'est pas, découverte et poésie. Même si des découvreurs, Vasco ou Pasteur, Colomb ou Freud, il peut arriver qu'on dise que c'était un poète. Au panthéon des découvreurs, il n'y a pas de poète. Le sonnet fut-il découvert ou inventé ? Inventé. L'inconscient fut-il inventé ou découvert ? Découvert. Quelle différence ? Peut-être à cause de l'imagination. Est-ce à cause de l'imagination ? Qui eut si mauvaise réputation ? Bon, enfin, c'est pas à cause de sa mauvaise réputation en France que je dis ça. La réputation du XVIIe siècle. Maîtresse d'erreur, folle du logis, etc. Que nous, disons, où l'imagination, où nous emmène-t-elle, ne nous fait-elle pas sortir du réel? La découverte, elle, nous découvre le réel et sa réalité. L'invention, o imaginativa, nous emmène peut-être ailleurs, où? Utopie. Nulle part, anywhere but out of this world. C'est ce qu'on peut craindre comme une folie, précisément. Le paradis est-il inventé ou découvert ? Hélas, inventé. Creusons l'écart, je creuse un moment l'écart sur un mode comique. S'il n'y avait que des gens comme votre serviteur, il n'y aurait pas de découverte. Nous serions toujours sans électricité, sans moteur, sans la roue, et peut-être même sans le feu. Invention découverte. La poésie, n'est-elle pas pourtant, alors je balance de côté, un mode du découvrir ? N'y a-t-il pas un sens de la découverte où l'art et celui de parler un poème est impliqué ? C'est par où découvrir est en synonymie avec dévoiler, désocculter, révéler et découverte avec aletheia pour qu'il prenne attention à la pensée philosophique, phénoménologique, heideggerienne. Rapprocher de ouvrir, rouvrir, redécouvrir, œuvrer, le découvrir fait entendre par où la poésie est peut-être l'occupation la plus innocente de toutes. Se découvrir qui n'est pas, même pas capable d'inventer le feu ou l'électricité, se découvrir a plus à faire alors avec la théoria de l'antique pensée et ses avatars philosophiques au cours de la tradition, qu'avec la théorie passée au service de la science dite moderne. S'il n'y a pas de progrès en art, en poésie, disons que pour la, avec des exemples, comme pour Lascaux ou telle grande mosaïque grecque ou romaine, nous le montre, c'est que par eux, la perfection fut et est de ce monde, où, comme on pourrait dire aussi, ne rentre pas dans la séquence du progrès. Il n'y a rien de neuf à découvrir au sens scientifique. Autrement dit, c'est de deux façons et conjointes que la perfection nous attend. Elle nous attend et attend notre découverte, à savoir en tant qu'ouverture ou apérité de l'être, grandeur ou dimension, je les prends en synonymie, qui demande à être remontré et par la beauté, ce qui est dans sa différence avec l'être, à contre-jour d'une éclipse de l'être, est à remontrer. C'est sur un ton heideggerien, bien entendu, rapidement alludé, parmi les noms des poètes, je vais citer à cause de l'ouvert, Rilke, à un moment, le nom de Rilke. D'autre part, ce que j'ai dit d'eux, est conjointement pour chacun sa langue, et donc le langage de la langue en tant que bienfaite est toujours déjà là pour que nous y entendions le monde, et que se découvre l'étendue de l'astre et du désastre. Oui, là, je me suis mis, je ne me lance pas dedans, parce que c'est mieux. Alors, j'avais évidemment le dernier distique de Baudelaire, plongé au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Bon. Alors, poésie et raison. Deux doctrines s'opposent. Pour l'une, donc, cette poésie et raison, c'est aussi, oui, un motif, si vous voulez, qui me fait continuer à harceler ce rapport poétique-théorie. Deux doctrines s'opposent. Pour l'une, qui prend appui sur une doxa répandue, que souligne routinièrement des sortes de proverbes. Celui-ci, comparaison n'est pas raison. Ben, mon proverbe, finalement, comparaison fait raison. Et Thalia, la poésie et la raison ne font pas ménage. Le raisonnement n'a pas cours. L'irrationnel et le déraisonnable font le régime de la poésie. La raison est l'étrangère ou l'ennemi de la poésie. Il semble que c'est tout ce qui est retenu aujourd'hui, finalement, la doxa du surréalisme, terme devenu diffamatoire, voire injurieux, ce qui est une catastrophe pour la poésie. Récemment, j'ai lu sous, ça c'est qu'une autre citation, ça n'a rien à voir, lu sous la plume de l'écrivain très estimé Goethe Solo, que tous ceux, et comme je n'ai pas retrouvé, je condense, mais ce n'est pas des guillemets, tout ce qu'aimait, recherchait, cultivait le zèle philosophique était précisément ce dont devait se détourner la poésie sous peine de déclin et d'aberration. Pour l'autre doctrine, il y a une raison poétique et donc possiblement une critique de la raison poétique. Raison ardente selon Apollinaire, mais raison raisonnable, sinon rationnelle. Que la raison scientifique, celle qui procède par théorème et expérimentation, théorisation et falsifiabilité, pour se couronner en grande théorie, ne soit pas la raison poétique, c'est précisément ce dont il est question ici, mais ce n'est pas une raison pour exclure la raison poétique de la raison, c'est-à-dire de la pensée. La pensée humaine sauvage est rapportée à l'esprit par Lévi-Strauss, ou bien capable de la rationalité scientifique, n'est pas scindée en deux modes absolument hétérogènes entre eux. Séparer violemment le voir poétique ou voir de la pensée par vue et vision, c'est parier pour une acception restreinte de théorie, comme faisait tout à l'heure l'adversaire de Baudrillard, et donc priver la poétique de la possibilité d'argumenter contre le point de vue apparemment émancipateur, en fait réducteur, qui plaide pour la licence, enfin disons pour la déraison poétique. Hypothèse, la déraison est une ruse de la raison poétique. Ni Ovide, ni le Quichotte, je dis le Quichotte pour Ovide Cervantes, c'est la même chose, ni André Breton n'était folle. La métamorphose est une chose sérieuse. Changer ceci en cela, ni par une superstition magique, ni par un surréalisme naïf qui maintient son réalisme crédule, ni par une féerie cinématographique et l'opération poétique. Mais Proust n'est pas Harry Potter, ni Breton ou Walt Disney. Ça se passe en langage. Je détourne au passage une formule thomiste. La raison rationnelle prend le relais de la révélation révélabilé, révélation entendue comme illumination ou illumination. Bon, je vais, mais oui, j'ai encore beaucoup de choses à dire, alors je vais sauter des pages. Mais continuez encore un quart d'heure, hein, d'accord. Bon, parce que là, je veux, je veux m'enfoncer un peu plus dans ce que j'ai appelé de la subjectivité, la différence subjectif-objectif. C'est un des grands modes de la différence entre ce qui serait théorie, la différence de théorie et la poétique comme théorie. Donc, la subjectivité, je l'envisageais ici sous deux aspects. En remarquant le lien de toute énonciation avec la croyance, et ensuite en posant la question de quelle jouissance est-il question. Alors, quant à la croyance, c'était pour dire ceci que je vais un peu commencer. La relation... Que la croyance soit l'atmosphère, disons, l'éther de propagation de tout énoncé, en voici, après la preuve cartésienne de la première méditation du Manogénie, la manifestation. C'est celui qui parle qui est cru. Telle est la performativité du présent de l'indicatif, toujours implicitement en première personne, affecté d'une sorte de coefficient présupposé, en moi, la vérité, je parle. Ce qui vient d'être dit est tenu pour vrai ou... Tout propos est un témoignage, le vrai est attesté. Témoignage est le nom de cette performativité. Parlant, je témoigne. La sincérité, disons, est le requis minimal d'un entretien, de tout entretien. Elle doit être mimée. quand il parle, vous voyez, et quoi qu'il dise avec ou sans serment explicite, de dire toute la vérité, le sujet est véridique. C'est même pour ça qu'il peut mentir. Il fait être le vrai qui, avec lui, entre dans le monde nouveau venu au sens d'un arène. Au commencement est la parole. C'est vrai parce que je le dis, et je le dis parce que c'est vrai. Peut-être même pourrait-on montrer que toute parole donne sa parole. Parole donnée, c'était un titre de Massignon. Et ainsi, toute énonciation est annonciation et dénonciation. On vous a dit que, et moi je vous dis que. Alors, le poème lyrique ou en je, ce serait son signalement moderne, profite de cette foi, de cette fidélité à la foi jurée. Qu'est-ce, quant au je qui est un autre, il a un nom, un pronom, c'est tu, toi. Le poème tu, toi s'adresse. Prie l'autre qu'il le croit, qu'il coopère et qu'ainsi nous soyons un dialogue, c'est-à-dire les êtres du Logos, puisque nous sommes un dialogue. Ainsi, l'intérêt que sollicite tout faiseur de plaquettes, c'est le mode d'existence ordinaire de la poésie en poème, la plaquette qu'il offre ne peut lui être refusée. La mince cérémonie de l'offrande, de la dédicace, de la signature, commémore cette alliance, ce lien. La publication de poésie consiste en la récidive innombrable de cette opération. Alors là, je fais des variantes que je vais un peu abréger, une espèce de prosopopée, de je vous donne ma parole, je vous dois la vérité en cette langue, la nôtre, je la perfectionne, je montre l'exemple, je remets en jeu ce que j'ai reçu, enfin, c'est un nombre de propositions, si vous voulez, en jeu qui monnaie la, qu'est-ce qu'on va dire, la croyance lyrique, enfin, la demande de croyance, la demande lyrique de croyance dans le qu'on peut appeler aussi la lecture, le dialogue, l'entretien, enfin, le rapport des deux, le je et son autre. Subjectivité suite, c'est le point 11, sur la suite de quelques-uns, de quelle jouissance est-il question ? L'amour de la langue est au cœur des choses, et l'invoquer, c'est se trouver au cœur de la difficulté, à savoir celle de parler, cœur des choses en termes de théorie. Il s'agit de la musicalité de la langue ou du caractère comme la musique de la poésie, ut musica. Si j'en parlais à loisir, j'entamerais le discours en le plaçant sous le fronton de deux références majeures, deux exergues donc, ici, dans l'esthétique de Hegel, ceci à propos de la musique, qu'elle est perception immédiate de l'âme par elle-même. Et cet autre, touchant, que j'ai relu, donc retrouvé récemment dans le livre de Jacques Lédricet, le lien musaïque chez Dante, qui avait été commenté d'ailleurs longuement par Agamben il y a un an ou deux dans un livre précédent et qui est repris dans l'opuscule de Jacques Lédricet. Guillemets. Le terme de lien musaïque que Dante invente n'indique pas que la poésie ajoute de la musique au langage. Écrire de la poésie consiste à lier la langue, faisant se répondre les sons et les rythmes. Dante accomplit le pari de faire gagner la langue vulgaire dans l'histoire en la liant par le poème. Nous en parlons modernes en termes de jouissance. Qu'est-ce à dire ? Le poème sert à entendre sa langue pour en jouir. Il faut donc être capable d'en jouir, à faire de compétences. Le poème fait passer au ralenti, si vous voulez, ces variations-là, elles sont pour essayer d'entendre la fameuse sentence de Walter Benjamin sur la prose comme idée de la poésie. Le poème fait passer au ralenti la capacité de parler d'une langue, fait passer une audition à la prose. La prose audie, alors française en l'occurrence, est auscultée en lecture, qu'elle soit silencieuse ou vociférée est secondaire, car celui qui n'est pas capable d'entendre la langue en oreille interne ou silencieusement, autrement dit ce qu'on appelle souvent un étranger, qui aurait seulement appris cette langue, n'entend pas la beauté qui comble la signification par le sens. Alors je m'attarde un tout petit moment à cette auscultation. Contrairement à ce que tel ou tel formalisme trop réduit à son époque prétend ignorer, c'est le sens qui commande la diction, la prévenant, laquelle commande la réalisation, la performance prosodique. L'élastique ondulation, c'est le grand terme de Baudelaire, enchaîne une régularité intonative de marque d'intensité, frappe accentuelle, oui, stress, même si ce n'est pas du français, comme on voudra dire, qu'entoure les syllabes plus atones, groupe séparé à leur tour de pause minimale ou quasi subliminale, qu'on peut qualifier de silence. Ces matrices rythmiques sont dénotables en pied, par convention, puisque bon, le système français historique n'est pas littéralement quantitatif, qui font une régularité irrégulière d'itération, repérable souvent à des paronomases, qu'on peut dessiner par convention toujours comme une sinusoïde approximative césurée. En français donc, si je suivais l'exemple, je verrais toute la diction complexe intérieure, c'est-à-dire mise en voix ou non, sonore ou silencieuse, repose sur le jeu accentuel et quantitatif, même si ces deux termes ne sont pas pris en rigueur linguistique de langue à tonique et à quantité. Celle de l'amuissement, du E phonétique à l'élision complète, couplé à la diérèse entendue en général, c'est-à-dire comme possibilité d'étirer le hiatus vocalique et les redoublements consonantiques. Telle est la prononciation dans l'ouïe, l'âme dont mentionnait Hegel tout à l'heure, l'oreille du dedans, qui rapporte la séquence langagière phrasée à une mesure foncière incorporée qui n'est aucun instrument métronomique mécanique séparé, mais dont la compétence est faite chair, cerveau, au long des premières années de la vie, possibilisant la comparaison ou le rapprochement de cet événement ou occurrence à ce maître métronome intérieur. Ainsi, le postulat baudelairien relatif à la référentialité, je ne sais pas si le mot est bien, ou expérientialité, il n'est pas meilleur, du caractère référentiel du poétique, guillemets, je rappelle l'axiome, dans certaines circonstances, la profondeur de la vie se révèle tout entière dans le spectacle, si ordinaire qu'il soit, qu'on a sous les yeux, il en devient le symbole. Alors, ce postulat, il s'entend aussi de la consistance ou contenance langagière, signifiance, comme on dit aujourd'hui, du phrasé lui-même, formellement examiné dans certaines séquences ouvertes, dans certaines séquences, on va dire, la profondeur ou beauté de l'idiome se fait entendre en certaines locutions, si ordinaires soient-elles, elles en deviennent l'exemplarité. Si ordinaire, je pense ça quand on parle des titres de Breton qui aiment bien prendre des expressions lexicalisées pour en faire entendre la capacité. Bon, aussi j'avais fait un petit développement sur la tringle de Michon, parce qu'au fond, le schème prosodique ou la grille formelle, comment dire, si on pourrait reprendre le mot amusant de Pierre Michon qui appelait tringle, le support d'un décasyllabique, le maître, la tringle, c'est-à-dire toutes les sortes de tringles, tous les casiers de cases syllabiques associés aux matrices des pieds, formule de verbe, comme quand on dit hexamètre, dactylique, ce qu'on veut, mais tout l'appareil est comparable à l'instrument dont le musicien va jouer, comparable, comme la musique. Clavier qui attend l'exécution, celui qui dit, qui entend silencieusement ou pas, fait passer la langue sur cet instrument de yambe, de trémarac, de péon premier, si vous voulez, et j'en joue, on joue. Je fais entendre la langue, la prose de la langue grâce au poème qui en joue, l'étirant ou le précipitant, resserrant ou desserrant, tassant ou détachant, alangui, etc. Et donc, toujours menacé de confusion avec la psychologie qui cherche à monopoliser les intonations. De la musique avant toute chose, c'est ça, c'est la musique. Bien entendu, c'est la musique, le caractère comme je saute. Alors, à quoi bon, il faut que je commence à songer à aller vers une conclusion, mais on prend encore un peu de temps, Denis, parce que j'ai une question après. Je vais, si vous voulez, essayer, c'est pas le mot d'abréger cet épilogue à quelques sentences qui seraient compréhensibles, même prélevées dans ce grimoire. À quoi bon un poème, mais si à quoi un poème est-il bon, Wozu, poème, un poème est, j'essaye ça, un poème est citable, du coup d'ailleurs recitable, c'est-à-dire récitable. Bon à être cité. Équivalemment, pour moi c'est un énoncé équivalent, un poème est de circonstance. C'est une espèce de connaissance du singulier. Vous vous rappelez, bien entendu, en arrière-fond de tout ça, là, justement, l'aristotélique connaissance du général, donc le rapport. C'est une espèce de connaissance du singulier par coïncidence dans la circonstance de deux éléments qui se cherchent, deux moitiés, si vous voulez, autrement dit, deux symbola. C'est par où j'essaye de donner aussi un certain sens, il y en a d'autres, à la symbolicité du poème, poésie symbolique. Un poème s'emploie à éclairer la circonstance appelée par une circonstance qui cherche à moitié, guillemets, pour trouver du sens ou s'augmenter de sens. Un poème cité à comparaître reconnaît la circonstance. C'est une des circonstances possibles pour laquelle il était fait grâce à la valeur allégorique de sa signification, c'est-à-dire de sa confection originale. Il s'ensuit, ou plutôt il s'en trouve, un plaisir spécifique. Il y aurait des pages d'un auteur un peu oublié sur ces questions, mais c'est Roger Caillois, sur le plaisir spécifique de ce qu'il appelait la devinette, la trouvaille. Ah, c'est ça que ça voulait dire, ce poème, parce que c'était lui, parce que c'était moi. C'est un type de vérité différent de l'apodicticité, du démontrable. C'est plutôt de l'ordre du montrable, comme on dit, de l'éclairant. Le poème montre l'exemple. Corollaire ou application au sujet du contextuel. La référence, que on dit parfois d'écrire avec un A, bien entendu. La référence est le rapport ou l'attirance réciproque comme de deux moitiés de la situation chosale ou chosique, sensible, et de son nom, et Noël, qui peut être un nom propre, après tout. C'est la nomination des lieux découverts. La première opération du découvreur étant de nommer. Enfin, je prends nom dans le sens, disons, dans le sens du rapport d'Arthur Rimbaud, du lieu et de la formule. Du phénomène et de son légomène noumène, si vous voulez. La référence au disciple, au poème, est attendue par le site. Elle est citable. C'est quand même, je ne vais pas faire de jeu de mots. Et réciproquement, on appelle contexte tantôt la circonstance choisie, tantôt l'entour textuel, la bibliothèque proche ou éloignée. J'avais pris un exemple, en racontant jusque d'anecdotes strictement privées. La lune pleine cette nuit-là, il n'y a pas très longtemps, appela la beauté de Baudelaire, pleine lune à 3h du matin, qu'elle éclaire réciproquement. Pourquoi ? Parce que tout à coup, je me suis dit, mais je suis belle ou mortelle comme un rêve de pierre, etc. C'était la lune qui se montrait. Alors, mais non, quand l'imagination lit là, le sonnet, la beauté, peut se rapporter à, justement, à un tas de possibles. Mais c'est pourquoi pas, la lune, c'est cette beauté-là. Il y a deux beautés chez Baudelaire. Il y a celle qui est... il y a celle-là, qui jamais... jamais je ne ris, non, jamais. Enfin, on peut voir qui est la beauté immobile. Et puis, il y a la beauté de la passante. Il y a deux beautés. Alors là, la lune, mais j'aurais pu prendre un poème de Leopardi. Il y a un moment, c'est ça, au fond, la poésie, c'est ça. Il y a un moment où le poème de Leopardi, Vague et Stellé, est appelé par un circonstance. Et beaucoup d'autres circonstances et beaucoup d'autres moments. Bon, alors, je vais vous débiter très vite quelques implications conséquentes. Le tout est contextuel. Une séquence n'a de valeur, valence. Alors là, j'avais aussi envie de partir sur ce côté-là. La valeur d'usage du poème, la citation, que dans son contexte. Par exemple, si j'isole telle petite phrase, je dis ça parce que je vais développer, je prends cet exemple parce que je vais essayer de dire quelque chose de Proust dans un instant. C'était Venise. Ça peut être une bribe de conversation entendue, autrement dit, ça n'est rien. Ou c'est du Proust. C'est peut-être la phrase la plus brève de Proust. Mais c'était Venise pour l'exclamation. c'est le moment décisif, après tout, du temps retrouvé. C'était Moïse. C'est-à-dire, la même phrase est une. Au fond, prend son sens et aussi, on peut dire sa beauté, dans le rapport contextuel. Un fragment du poème est un poème, manière de dire son essentiel brevitas, fait pour être coupé aphoristiquement, dans la jouissance de cette langue qui fait mémoire de la capacité de ma langue à porter du vrai à la beauté, échange de réciprocité de preuve, formule de Mallarmé que j'emploie un peu trop souvent. Je dis aussi, ça, la sentence poétique est paraphrasable à cause de ce caractère, justement. C'est la même chose de dire elle est brève essentiellement ou de dire qu'elle est paraphrasable. Bon, je vais prendre un exemple et je passe. Alors, sur quoi je vais me poser pour finir, pour essayer de finir. Peut-être ceci, parce que je reprenais en essayant d'arriver à la conclusion, le lexique, et pas seulement le lexique, de l'intuition. Alors, là encore, je vais isoler de ce moment-là qui envisageait plusieurs sens d'intuition. Hein. Le mot est, comme vous le savez, est dans l'usage vernaculaire le plus constant et dans la philosophie. Demande une attention spéciale, celui d'intuition. La tuerie de l'intuition voit autre chose que ce qui est là sous les yeux, autrement dit, elle pense en voyant, elle en dit plus et autre que ce qu'elle observe, décrit à strictement le circonscrire, le point de vue ou du méta. Et puis, alors, j'arrive à ceci, celui-là, je vais, disons que ce sera. Ce sur quoi je vais. Non, peut-être que. Voilà, je vais dire ces trois dernières pages. L'intuition sensible, j'ai appelé ça, et la question où sommes-nous? Proust demande, par Jean Santeuil, ce que c'est qu'un endroit de la terre. Il n'y en a que par réminiscence. Enfin, c'est ce que les phrases qui suivent sont ceux d'un lecteur de Proust. Il n'y en a, ce n'est pas des citations, il n'y en a que par réminiscence, temps retrouvé, une disposition complexe dont on peut essayer de distinguer les phases et les composants. Ainsi, sans doute toujours, ni l'est ni l'intellectu, quod prius, quod furit, s'insule sensible et toujours plus prégnant que l'intelligible ou abstrait, posé à part, celui-ci en notion par l'intellect, et vous avez entendu, réentendu, suspecté, arrive bonne foi. L'intelligence préfère le sensible entré par l'émotion perdue et retrouvée en souvenirs qui sont bien volontaires et involontaires. Mais le présent de la sensation ne s'élève pas au sens, signification par le sens, s'il ne se change pas en temps retrouvé, pourrait dire aussi probablement s'il ne passe pas par l'inconscient. La doxa voudrait retenir la sensation actuelle et croit que le langage en est le phonogramme, bien entendu inférieur au photogramme. Mais la littérature nous dit qu'il n'y a de lieu que par l'épiphanie, c'est-à-dire le retour de Venise en « c'était Venise », la sensation d'un intérêt qui a à rendre possible cette illumination. Jean Santeuil perd son temps jusqu'à ce qu'il le comprenne. Il n'y a d'endroit, donc de terrestre, que par épiphanie, revenance extatique du perdu. Ce qui revient n'est pas une idée, par une sorte d'anamnèse, mais non platonicienne. Marcel ne dit pas que l'âme est homoïdes, c'est le terme qu'il y a dans le Phédon, semblable à l'idée, homoïde, parce qu'elle aurait fréquenté la sphère des idées ou le monde des idées avant, et serait donc immortelle, ou aion étant toujours, mais il dit que, dans cette félicité, cette anamnèse-là, la mort même lui est égale. Donc il s'agit bien du retour, il s'agit bien de la mort, de l'immortalité, si on veut. Ce n'est pas une ivresse de l'idée, mais du sensible disciple. Ou bien on peut dire, peut-être c'est formé, il n'y a pas d'épiphanie de l'idée, qui serait un énoncé équivalent pour moi, il n'y a pas d'intuition intellectuelle. Il y a réapparition du terrestre, c'était Venise. L'essence est perdue et retrouvée, cette essence est en devenir, un devenir. C'est pourquoi elle s'entend aussi E-S-C-E-N-C-E, l'essence, la désinence incoative qui est tout le temps chez Proust. Alors, cette complexité, ayant dit ces quelques mots, n'est pas suffisamment analysée, car il y a la médiation des œuvres d'art, l'être comme une Néréide de Madame de Guermantes, et autrement, la jouissance de réminiscences en langue, dans les anneaux d'un beau style. Le sens attend la beauté de sa langue. Tâche à saisir, l'épiphanie de Proust lui parle, tâche à saisir l'énigme que je te propose. C'est pourquoi je dirais avec brusquerie, pour nous aujourd'hui dans la lecture, ainsi nous faut-il à nous modernes reverser Dante à l'ici-bas, le profané, je dis, on avait eu une discussion assez résidue avec Denis sur déposer ou profaner. Le profaner, ça veut dire à usage de notre séjour en tant que promesse de la terre. Il ne, pour le dire un peu grossièrement, il ne prouve pas, l'individu ne prouve pas le paradis, mais il assemble la beauté de la terre. Et je prends exprès le dernier, ce que fait le paradis, le dernier vers de Handel, il assemble la beauté de la terre. Alors, de la vision, ça sera ma fin un peu théâtrale. De la vision, je dirais bizarrement, sautant malheureusement qu'une transition, finalement j'ai écrit trop de choses. C'est-à-dire, disons, ça serait comme, pourquoi j'ai entendu vision à cause de voyance dont je parlais un moment, comme ultime tentative de distinguer la théorie poétique et la poétique comme théorie et la théorie. De la vision, je dirais bizarrement qu'elle est ce dont on peut changer. La vision d'avenir, dit-on, et synthèse temporelle, récollection, recommission, anticipation, unifiant passé, présent et imminent, prophétisable, comme si chaque phase était suspendue à son avenir. Changer de vision ne veut pas dire modifier tel détail, mais le tout par renversement, inversion des signes. Métanoïa, conversion, je l'appelle pour mon compte, palinodie, boucle qui se retourne en remontant pour entraîner à nouveau le reste transformé en sa perte. C'est au fond un mouvement, si on veut, contraire de celui que Wagner enfin, fait baptiser comme mouvement orphique, c'est se retourner en remontant pour entraîner, pour was bleibt, pour garder ce qui reste transformé en sa perte. Ma question c'est, est-ce que cela, ayant dit la vision, c'est ce dont on peut changer, est-ce que cela est homologue au changement de paradigme de l'épistémologie ? Ce qui serait une façon de rapprocher la pensée scientifique et la pensée politique, les deux théories. La vision, en tous les cas là, dans cette manière que je vais en parler rapportée à la politique, on va dire, hésite entre deux paradigmes. Je vais vous en proposer une petite fable conclusive à propos de l'écologie. Parce qu'il n'y a pas d'écologie sans vision, ni de vision sans écologie aujourd'hui, et que notre vision est notre décision, ou l'inverse, une fois ou l'autre. Alors, c'est une fin du monde ou un début de monde, au choix. Le même état de choses, c'est donc, si vous voulez, pour essayer de justifier cette aphorisme, cette sentence, la vision est ce dont on peut changer. Le même état de choses, les mêmes spectacles du monde, le même, dis-je, peut emporter l'imagination et la pensée dans un sens ou dans l'autre. L'apocalypse, now, c'est la fin explosante, ou bien, c'est-à-dire, l'hésitation, la vision sans hésitation, bien, à l'enthousiasme déchaîné d'un jeune reporter étincelant hissant le monde à plein bras, caméra chargée de merveilles techniques et naturelles, prouesse de statistiques, sauvetage inouï. C'est reparti, entrée aux villes splendides, affection et bruit neuf. Car quoi qu'il arrive, ce qu'il y a aujourd'hui, parce que tout à l'heure je me suis demandé au début, j'ai parlé du il y a, au fond on pourrait dire que la tâche phénoménologique de la poésie, ça donc c'est une manière de parler poétiquement en surconsurel, est de dire ce qu'il y a, car ce qu'il y a n'est justement pas évident. Ce qu'il y a n'est pas évident. Donc, il y a. Qu'est-ce qu'il y a ? Je reprends la formule du il y a. Qu'y a-t-il aujourd'hui ? On pourrait demander au poète. Ah ben, c'est justement pas évident. ce qu'il y a aujourd'hui est montré de la même façon. Ce sont les mêmes images au sens média qui annoncent la fin télégéniquement. Tout artefact visuel sonore le screenise, je mets ici en mode publicitaire, en mode communicant, en spot aveuglant pulvérisé, haché, flashé, en demi-seconde violente, flashing et berluant, presque subliminal, c'est la bande-annonce, la bombe à fragmentation du film des films, qui s'appelle Le Monde. Terminé comme ça. Non, pardonnez, c'était évidemment, il y avait trop de choses. Dans les 14, par exemple.